De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Est-ce que vous trouvez que ça sent l'été, ça sent la fin de la saison, ça sent la fin des classes? Ben, ça signifie aussi la fin de la saison régulière de Cube Radio, bien sûr, à partir de lundi, le 21 juin. Il va y avoir des nouveaux collègues, hein, des collègues qui se joignent à l'animation pour la saison d'été. Mais pour ma part, ça va être bientôt donc les vacances et les vacances aussi pour mes chroniqueurs. Et mon chroniqueur du jeudi, c'est Joseph Facal, qui est lui-même chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Et ça va donc être sa dernière collaboration pour, en tout cas, ce petit bout de saison-ci. Joseph, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Et qui dit fin de saison, dit aussi fin de saison parlementaire. Alors, on s'est dit qu'on allait ensemble aujourd'hui faire une sorte de bilan des derniers mois à Québec sur le plan politique. On va commencer évidemment en tout seigneur, tout honneur par la CAQ. Écoute, j'en parlais avec des collègues justement un petit peu plus tôt ce matin, en fait, pour pas le nommer, j'en parlais avec Jean-François Roy qui réalise cette émission et on se disait à quel point Christian Dubé, ministre de la Santé, qui multiplie les entrevues, qui multiplie les interventions, il était hier soir au Centre Bell pour le match de hockey avec son chandail de Cole Caulfield. Il fait un bon boulot, le ministre Dubé.
Le ministre Dubé fait un excellent boulot. Et en même temps, je te dirais qu'en politique, il n'est pas interdit d'être chanceux. Et en ce moment...
Excuse-moi, mais j'adore ta formule. Même une horloge arrêtée à raison deux fois par jour, tu pourrais dire aussi. Voilà.
pour la CAQ, en ce moment... Tous les astres s'alignent. L'électorat, je m'excuse de dire ça comme ça, mais l'électorat a la mémoire très courte. Et l'indéniable succès de la campagne de vaccination fait oublier les ratés de l'année dernière. Mm-hmm. Autrement dit, si tu veux, les gens retiennent la fin du film plutôt que le début ou le milieu du film. Mm-hmm. Et donc, la vaccination largement orchestrée par M. Dubé se passe vraiment très, très bien. Et donc, le gouvernement Legault va sortir de la pandémie avec un très beau bulletin. Et à cela, évidemment, s'ajoute le fait que l'économie reprend, les sourires reviennent, on retrouve nos terrasses, on retrouve la chaleur, on retrouve les amis. Et en plus, comme si c'était pas assez, ben Justin Trudeau se cherche des votes au Québec. Donc, il fait des ouvertures au Québec et la CAQ peut les récupérer en disant « Voyez ce que nous avons également obtenu ». Donc, tout est beau pour la CAQ, ce qui, au fond, signifie que son principal danger, c'est elle-même. Gance, la complaisance, les sautes de mauvaise humeur, le fait de se croire invulnérable quand on est face à une opposition complètement fragmenté, mais honnêtement, si les élections avaient lieu maintenant, la CAQ ferait un résultat proprement historique. Cela dit, le 3 octobre 2022, c'est encore loin.
Oui, t'as tout à fait raison, mais c'est quand même intéressant, en effet, d'analyser les intentions de vote. Mais j'aime beaucoup quand tu dis, il faut pas mettre de côté la chance et les circonstances qui font que, évidemment, un politicien peut bien paraître quand le contexte lui est favorable, même si nous, on interprète ça comme étant « Eh mon Dieu, qui se débrouille bien », alors qu'en fait, c'est « Oh mon Dieu, qui est chanceux que la situation se passe bien ». Et tu as tout à fait raison de rappeler que quand on regarde le bilan du Québec en termes de pandémie, les débuts ont été horribles. On a juste à penser aux nombreux décès inacceptables au CHSLD Aaron, des gens qui sont morts dans la pire des indignités, mais aussi tous les autres, ces personnes âgées dont on n'a pas pris soin. Et c'est en effet, il faut faire attention de pas amalgamer tout ça en disant « bon, ça finit bien, mais ça a en effet très mal commencé ». Bon, évidemment, on parle du ministre Dubé. Parlons de François Legault. Quel bilan tu fais, disons, de la dernière session parlementaire, de son comportement, de ses faiblesses, de ses forces?
Écoute, je crois qu'au total, François Legault lit bien l'humeur du peuple québécois, le tempérament du peuple québécois. Et il y a chez lui cette espèce de simplicité, de bonhomie, de côté bon père de famille qui rejoint profondément les Québécois. Par ailleurs, on a beaucoup reproché à ce gouvernement d'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup les sondages. Bon, d'accord. Ben, ça marche. Parce que le moins qu'on puisse dire est que tant M. Legault que le positionnement général de son gouvernement est bien campé sur, disons, l'état d'esprit de l'ours moyen au Québec. Si tu prends les deux réalisations phares du gouvernement, c'est-à-dire la loi 21 sur la laïcité et le projet de loi 96 sur la langue, ben, c'est une sorte de nationalisme modéré, surtout pas trop tiré sur l'élastique, et donc ça colle très bien à l'état d'esprit des Québécois. Tu sais, Sophie, la politique est faite de haut, de bas, de conjoncture, mais il y a des tendances lourdes.
Oui.
Et depuis que les sondages existent, depuis des décennies, on sait toujours que, sauf pour un petit maman au début des années 90, la souveraineté n'a jamais été l'option majoritaire au Québec, pas plus que le fédéralisme actuel. Au fond, ce que les Québécois en majorité ont toujours désiré le plus, c'est un Québec qui s'affirme dans le Canada actuel. Et d'une certaine façon, le gouvernement Legault peut dire « Ben, c'est ce que vous voulez, c'est ce que je vous livre. » D'où, évidemment, les taux de satisfaction absolument stratosphériques auxquels il faut évidemment associer le fait que quand ça va mal, il y a un réflexe naturel de rassemblement autour du chef de la nation. C'est ce que les Américains appellent « rally around the flag ». Quand ça va mal, on se tourne vers le chef. Donc, tout ça profite à M. Legault.
Oui, tout à fait. Je veux t'entendre aussi sur ce que certains lui ont reproché comme étant ses sautes d'humeur, une certaine arrogance. Est-ce que tu penses qu'il a compris le message et qu'il s'est assagi?
Sophie, au cours des 12 derniers mois, qui d'entre nous n'a pas pété sa coche?
Ouais, imagine, moi j'ai la pandémie puis la ménopause les deux en même temps. Fait que je revendique le droit d'avoir doublement pété ma coche, t'en parleras Richard. Fin de la parenthèse.
Alors oui, c'est vrai que M. Legault a eu des moments d'exaspération. C'est vrai aussi que pour l'avoir vécu, la joute parlementaire, la période des questions, même si évidemment en ce moment on vit des périodes de questions absolument bizarroïdes, le fait est que dans cette espèce de serre chaude, enfiévrée, dans ce ring de boxe qu'est la période des questions, de temps en temps, tu échappes comme ça un mauvais moment de mauvaise humeur. Je crois que les vacances, s'il peut en prendre, vont lui faire du bien, à lui comme à tout le monde. L'impression générale qui se dégage est que, malgré quelques coches mal taillées, c'est quand même un gouvernement pas trop arrogant, un gouvernement près du monde, un gouvernement qui lit assez bien, si tu veux, l'humeur générale. Et ça, ben écoute, les chiffres sont là. Hein?
Ouais.
Si l'élection avait lieu maintenant, la CAQ ne laisserait que l'ouest de l'île de Montréal au Parti libéral et balayerait absolument tout le reste.
Absolument. Très, très, très intéressant et très important comme analyse. Et quand tu parles justement de du fait que le gouvernement Legault mise beaucoup sur les sondages pour prendre le pouls de la population, je veux juste te dire, hier, j'ai fait une entrevue avec Geneviève Landry, qui est directrice générale d'un organisme qui s'appelle Entraide pour Hommes sur la Rive-Sud. Et je voulais qu'elle réagisse aux propos de Geneviève Guilbeault sur la violence conjugale, quand elle disait « on ne pourra pas empêcher tous les féminicides ». Et Mme Landry a pris la peine de commencer en disant « ça fait des années qu'elle travaille dans ce domaine-là, d'aider les hommes, la violence conjugale et tout ça ». Et elle dit « c'est le gouvernement qui en a le plus fait ». On pense à l'argent, on pense à la préoccupation, on pense aux campagnes pour sensibiliser les gens à la violence conjugale. Donc, je pense que même dans ces dossiers-là, dans des dossiers peut-être plus sociaux et moins purement politiques, comme la laïcité ou la langue, même là, il y a une sensibilité du gouvernement Legault. Je tenais à le souligner parce que Habituellement, quand tu parles à des organismes communautaires, ils sont toujours en train de chialer sur le gouvernement, qui n'en fait pas assez, etc. Et j'avoue qu'hier, j'étais assez impressionnée d'entendre Mme Landry envoyer des fleurs au gouvernement. Habituellement, on est plus habitué que les organismes envoient des pots. Donc, on a amplement parlé de la CAQ. Les libéraux, est-ce que Dominique Anglade t'impressionne? Est-ce qu'elle t'épate? Est-ce qu'elle te déçoit? Un peu les deux, je te laisse aller.
Est-ce qu'elle m'épate? Non. Est-ce qu'elle me déçoit? Non plus. En fait, Mme Anglade a, rappelle-toi, triomphé sans adversaire dans la course à la direction. Et en raison de cela, beaucoup de gens avaient des attentes très basses. La vérité oblige à dire qu'elle fait bien. Elle fait plutôt bien. Je crois que ses interventions sont pertinentes dans un contexte évidemment difficile où tous les partis d'opposition peinent pour faire réaliser qu'ils existent. Je crois qu'elle s'en sort plutôt bien. Cela dit, elle fait face à un dilemme cornélien, c'est-à-dire qu'elle doit reprendre pied chez les francophones du Québec, et pour cela, évidemment, elle doit dire des choses comme « ben oui, la langue française va mal, il faut des mesures », et en même temps, tu comprends que chaque fois qu'elle s'aventure sur le terrain du nationalisme même le plus modéré, ben forcément, ça indispose l'aile anglophone, allophone du Parti libéral du Québec, qui n'a pas tort de dire que si le Parti libéral du Québec survit, c'est à cause d'elle.
Enfin, grâce à elle, oui, tout à fait, voilà. Mais t'as tout à fait raison.
Donc ça explique cette espèce de funambulisme de délicat de Mme Anglade, qui, par ailleurs, tu vois, a été obligée de dire que sur la loi sur la laïcité, elle ne reconduirait pas la clause non-obstant, ce qui revient évidemment à livrer cette loi en
partie
aux tribunaux fédéraux.
Oui, tout à fait.
Donc d'un côté, elle a des propos nationalistes, mais de l'autre côté, elle doit aussi donner à boire et à manger à son aile anglo-allo-multiculturaliste. Donc, pas évident pour elle.
Non.
Et bien entendu, quand les gens regarderont les sondages dans quelques mois, ben ce ne sera pas évident pour le Parti libéral du Québec de trouver des candidats de prestige qui accepteront d'aller au bâton dans ce qui apparaît ou risque d'apparaître comme une élection perdue d'avance.
Mm-hmm. Écoute, il nous reste un petit peu de temps. On va essayer de le partager, ce temps-là, entre on va respecter l'ordre des pourcentages d'intention de vote et aussi de présence, évidemment, à l'Assemblée nationale. Donc, allons-y avec QS d'abord, le PQ ensuite. Écoute, au cours des dernières semaines, donc, on a appris qu'il y aurait une passation de pouvoir de Manon Massé, de Manon Massé, donc, à Gabriel Nadeau-Dubois. Et je t'avoue que Gabriel Nadeau-Dubois, tout jeune qu'il est, tout jeune qu'il soit, m'impressionne par sa maîtrise des dossiers, son calme, sa tempérance. Je ne sais pas s'il t'impressionne, toi aussi.
Ah, mais bien sûr. C'est clair qu'il a des dons évidents pour la joute politique, en tout cas pour la joute politique telle qu'elle se déroule de nos jours, c'est-à-dire bien communiquer en phrases courtes, imagées, en clips, en punch, bien passer à la télévision, dans les médias. Pour ça, évidemment, il est excellent. Il reste que les chiffres montrent que, après l'élection de 2018, où QS avait réussi l'exploit de sortir de l'île de Montréal, là, on s'est dit, il y a peut-être le début de quelque chose. Mm-hmm. Et là, on voit évidemment que QS a un petit peu de difficulté à concrétiser, à capitaliser, à croître après son succès de 2018. En fait, QS mise sur l'effondrement du PQ pour, si tu veux, occuper plus d'espace à la gauche du centre. Mais là encore, ça met QS devant une sorte de contradiction. C'est-à-dire que pour courtiser les nationalistes progressistes, il faut se dire, bon, souverainiste, mais en même temps, on sait bien que 50% des sympathisants de QS sont des fédéralistes.
Ouais.
Donc, évidemment, c'est un parti un petit peu écartelé.
Ben, ils doivent faire
dans son virage sur les signes religieux.
Ben voilà, c'est ça, j'allais dire, évidemment, parler de la laïcité, c'est-à-dire qu'eux aussi doivent faire du funambulisme exactement comme Dominique Anglade, parce que, écoute, si tu es pour la souveraineté, mais que tu es aussi pour la laïcité, tu voteras pas QS, parce que même si QS fait sa profession de foi souverainiste, ils ont montré clairement que sur la laïcité, ils avaient changé d'avis. Donc, tu n'iras pas vers eux. Si tu es contre la laïcité, ou enfin contre projet de loi, contre la loi 21, mais que t'es contre la souveraineté, tu te trouves encore une fois pris entre deux feux. Donc, c'est pas évident pour eux à jongler, mais je veux dire, ils se sont eux-mêmes peinturés dans le coin, voilà, en faisant ce volte-face sur la laïcité quand même.
J'ai aussi le sentiment que une bonne partie de la sympathie qu'attire QS, notamment chez l'électorat plus jeune, est liée au fait qu'on sait très bien que QS ne prendra pas le pouvoir. Mmh. Autrement dit, beaucoup de gens savent que le programme de QS est rempli de propositions radicales et complètement irréaliste. Mais, si tu veux, il y a un côté, allez, on se fait plaisir, c'est un vote de protestation, il est bien fin, Gabriel, on vote QS. On sait très bien que QS ne prendra pas le pouvoir. Donc, si tu veux, il y a une dimension presque ludique au fait de voter QS. Là, évidemment, ça pose un autre dilemme. Si QS veut aspirer à se rapprocher du pouvoir, il devrait évidemment se modérer. Car le pouvoir, il est toujours au centre. Et comme on l'a vu avec le comité décolonial de QS, à chaque fois que la direction veut devenir un peu plus modérée, ben, y a des gens qui, eux, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison dans la vie.
Oui. Il nous reste un peu de temps. On a du temps pour le PQ. Sur un respirateur artificiel, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est quand même très vigoureux dans sa défense de différents dossiers, mais certains le trouvent trop notaire, trop beige, trop intellectuel, parle pas assez avec son cœur. Je sais que c'est tout des trucs d'image, mais c'est quand même important. Quel genre de bilan tu fais pour lui et pour son parti?
Écoute, Sophie, s'il y a en ce moment un cas concret qui illustre les difficultés, voire même la cruauté du combat politique, c'est la position dans laquelle se retrouve Paul Saint-Pierre Plamondon. Honnêtement, il est jeune, dynamique, vigoureux, bon communicateur, sort souvent, sort sur les bons thèmes, et malgré tout ça, on voit qu'il a de la peine à rester au-dessus de la ligne de flottaison. En fait, quand on regarde le PQ, on hésite entre soins intensifs et soins palliatifs. Ils sont rendus à 7.
Ouais.
7 députés. Et on a des raisons de penser que les trois piliers, M. Godreau, M. Birubé et Mme Yvon, risquent de ne pas être candidats aux prochaines élections. Quand tu parviens à un certain âge dans la vie, tu te demandes, coudonc, je veux-tu faire ça pour le restant de mes jours? Donc, évidemment, les trois piliers partiraient. M. Lebel, lui, est pris dans le procès que l'on sait. Tout ça dans un contexte où le chef ne fait pas mal du tout. Le problème, c'est qu'en politique, Sophie, t'as beau dire les bonnes affaires, si l'auditoire a changé de poste,
ouais, voilà,
il t'écoute juste pas. Comprends-tu? Ouais. Le problème en ce moment, c'est que bien des gens n'écoutent pas le message du PQ, ce qui, évidemment, va relancer cette éternelle question. Beaucoup de gens vont se dire, ah, et si on fondait un nouveau parti?
Ben oui, ben...
Ben justement, le problème, c'est pas le magasin. Le problème, c'est le produit.
Même s'il y a une nouvelle bannière, si tu veux vendre des bananes, t'as beau changer le nom du magasin, si les gens veulent pas manger de bananes, il y a rien à faire. Et oui, la souveraineté voilà. vient d'être comparée à une banane. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un yogourt, comme l'avait fait Falardeau. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Merci beaucoup, Joseph. Je te souhaite un très bel été. Profite bien de tes vacances et je te l'annonce tout de suite. Tu vas faire partie de notre équipe de collaborateurs au retour au mois d'août. Enfin, si t'es pas trop chérant puis que, que ça te tente.
Hey, c'est vraiment gentil de m'annoncer ça comme ça, sans préparation. Je te dis oui tout de suite.
Bon, j'adore ça. Je t'embrasse bien
Merci.
Fort. Passe un
Salut.
Excellent été et puis les auditeurs vont te retrouver vraiment avec énormément de plaisir parce que t'es toujours bon pour éclairer notre lanterne politique. On se retrouve donc au mois d'août. Merci, Joseph.
Merci, au revoir.
Joseph Facal, donc chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.